Bonjour à chacun chacune. J'ai fait ma thèse sous la direction de Pierre Perrier, donc dont vous avez entendu parler. Donc il y a des liens entre nos travaux. Le premier temps se veut quand même comme un témoignage, et ensuite j'aborderai un petit peu les résultats de ma thèse, donc que j'ai soutenue en 2020. Pour commencer, voilà, ma question initiale de ma recherche, c'était qu'est-ce qui se passe dans la relation à l'institution scolaire pour les mères, spécifiquement pour elles, parce que, en fait, dans le cadre d'emplois précédents dans des institutions publiques en lien avec l'enfance, notamment à l'éducation nationale, je me suis rendu compte qu'on était toujours saisi et très très souvent en relation avec les mères et non pas avec les pères. Donc j'ai voulu aller gratter un peu ça. Qu'est-ce qui se passe pour elles dans ce rapport avec l'institution scolaire. Bon, j'ai enquêté en REP, je ne vais pas détailler, enfin vous savez tous pourquoi j'ai enquêté en REP, c'est parce qu'il y a le référentiel de l'éducation prioritaire qui amène les équipes à travailler spécifiquement la relation avec les parents, en partant du principe qu'il faudrait finalement responsabiliser ses parents et que le partenariat serait forcément bénéfique à mettre en place. Donc à partir de là, moi, je me suis vraiment interrogée sur qu'est-ce que c'est l'expérience vécue au quotidien par les mères dans leur contact avec l'école. Et les mères auprès desquelles j'ai enquêté sont des mères de familles populaires qui ont un parcours migratoire. Alors, pourquoi ces caractéristiques? Je vais présenter un petit peu le contexte dans lequel s'est déroulée l'enquête. Parce que j'ai enquêté dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le quartier dans lequel j'ai enquêté est le plus pauvre de la commune, avec bon, un ensemble d'indicateurs que je ne vais pas détailler, mais un nombre important de chômeurs, des personnes qui ont un diplôme inférieur au CAP ou BEP, qui est de l'ordre de 43% de la population du quartier, un revenu médian qui est bien en dessous pardon, de la moyenne française, beaucoup de parents, enfin les actifs qui sont ouvriers et employés, et puis au niveau des familles monoparentales qui sont surreprésentées, et des personnes immigrées qui représentaient en 2014 22,4% de la population du quartier. Donc c'est un. Pour vous donner juste quelques indications. Il y a différentes questions qui ont guidé mon travail, donc j'ai déjà commencé à l'esquisser. Mais d'une part, il y a pourquoi la relation avec les parents, elle est recherchée par les enseignants et enseignantes. Que véhiculent les projets qui sont déployés à l'intention des parents? Et puis, que ressentent les mères face à l'école? Comment elles vivent ces sollicitations? Donc, comme je l'ai un peu esquissé, en soutien en fait de ces questions-là, il y avait bien sûr le travail de Pierre Perrier sur la question du différend entre les familles populaires et l'école, avec l'idée qu'il y a un conflit de légitimité et d'intérêt qui rend difficile une entente sur un bien commun. Et puis un autre aspect de la littérature sur lequel peut-être on pourra revenir lors des questions, c'est la question de l'ethnicisation des rapports sociaux. Tout un travail qui est développé par Françoise Lorcerie en particulier, qui s'est imposé en fait parce que les équipes que je rencontrais mobilisaient des caractères ethniques pour désigner les spécificités, voire les difficultés rencontrées dans le quartier. Donc pour répondre à ces questions qui sont projetées et que je viens d'évoquer, j'ai passé 2 ans et demi dans et autour des écoles d'un quartier. L'idée étant de faire ce qu'on appelle la théorisation ancrée, c'est-à-dire de m'imprégner des logiques des acteurs pour nourrir la théorisation et pour nourrir la problématique. Donc de partir en fait de ce qui se passe sur le terrain pour comprendre et élaborer ensuite une réflexion. Et le parti pris, ça a vraiment été d'accepter le quotidien dans ce qu'il a de banal, de trivial, en partant du principe que c'est la trame dans laquelle vient se tisser le rapport à l'institution. Donc en gros, je me suis dit, je ne peux pas comprendre ce qui se passe avec l'école si je ne comprends pas comment se déroulent les journées, comment se façonne le temps pour ces mères. Donc ça, c'est pour vous présenter mon questionnement. Alors, je vais rentrer maintenant dans cette partie un peu de témoignage comme je l'ai esquissé et vous parler des rencontres que j'ai faites sur le terrain et de comment je les ai faites. Pourquoi je fais ça? Déjà pour vous dire d'où je parle, c'est-à-dire pour expliciter d'où viennent les données que je vais vous présenter ensuite, et aussi parce que ça éclaire, à mon avis, ce qui se passe sur le terrain pour les acteurs qu'on rencontre durant l'enquête. Donc je vais y revenir. Pour rencontrer les familles, j'étais plutôt du côté des familles, même si j'ai aussi enquêté avec les enseignants. En fait, j'ai participé à l'accompagnement à la scolarité, donc au centre social, où j'ai fait de l'aide aux devoirs, à la FEVE. Enfin, l'idée étant, à travers ces activités-là, de légitimer ma présence dans le quartier, en fait, de devenir une figure un peu plus familière, puisque je n'habitais pas là. Je vais faire un petit temps quand même pour vous présenter qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre avec les équipes éducatives, et puis ensuite je parlerai des parents plus longuement. Pourquoi j'ai rencontré les enseignants ? Parce qu'il m'a semblé qu'il était nécessaire pour comprendre dans l'optique d'une configuration, hein, comme le dirait Norbert Elias, mais en me disant qu'on ne peut pas juste enquêter auprès des parents, il faut aussi enquêter auprès des enseignants. Donc je voulais caractériser les attentes de l'institution scolaire et mieux cerner la nature de la relation entre les parents et les équipes. C'est le lieu de scolarisation des enfants que je rencontrais dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité qui a déterminé les écoles où j'ai enquêté. Donc ces écoles, c'est trois écoles, une REP plus et une école privée sous contrat, ainsi que deux collèges donc, qui sont dans le cadre du réseau. Un petit mot sur l'école privée, c'est une école qui est implantée de très longue date sur le quartier, qui accueille la population du quartier. Donc on pourrait rentrer dans des nuances, mais globalement, c'est les mêmes familles qui fréquentent l'école privée. Bon, rencontrer les professionnels n'a pas toujours été facile. Il y avait un sentiment d'être débordé qui amenait à repousser mes demandes d'entretien. Mais néanmoins, j'ai fait 35 entretiens et surtout plusieurs dizaines d'heures d'observation des dispositifs mis en place pour faire venir les parents à l'école. Donc là, dans ce quartier-là, c'était notamment des cafés des parents et des classes ouvertes en activité. Ce qui s'est passé, c'est que l'accueil a été un peu ambivalent des enseignants et enseignantes. D'une part, une acceptation de l'enquête hein, qui est réelle, et en même temps, parfois de la méfiance au premier abord. Et je pense que ce qui a facilité l'enquête, c'est le fait que les enseignants ont en fait apprécié, ont utilisé le temps de l'entretien pour rompre une forme de sentiment d'isolement ou alors pour pouvoir se confier sur leurs collègues qu'ils ont parfois critiqués. Donc en fait, l'oreille de l'enquêtrice qui est présente sans être jugeante semblait assez indiquée pour ce type de confidence. Donc le quartier disqualifié m'a semblé être un terreau assez favorable pour l'enquête. Alors maintenant, je vais vous parler de ma rencontre avec les familles. En fait, il semble que parler de la manière dont j'ai rencontré les parents éclaire en fait aussi sur les préalables qui sont nécessaires ou qui sont à avoir en tête dans toute tentative de coéducation. Et je me base ici sur l'idée que l'idée d'une science neutre est inconcevable. C'est-à-dire que forcément, je me suis impliquée, donc je vais expliquer comment, pour véritablement rencontrer ses parents. Donc au premier abord, ce que j'ai ressenti, c'était de la méfiance par rapport à ma demande d'enquêter des familles, parce que l'enquête, ça renvoie aussi bien sûr à l'enquête sociale. Or, il se trouve que moi, j'avais besoin de conduire une recherche en m'imprégnant de ce que vivent les personnes. C'était nécessaire pour saisir cette question du quotidien. Les caractéristiques des mères que je rencontrais, donc au centre social, je rencontrais des mères qui venaient aussi à l'école. Ça, je l'ai bien perçu assez rapidement. Donc, je suis allée vers la FEVE. Alors, la FEVE, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. En fait, c'est un dispositif d'étudiants qui vont accompagner des enfants 2 heures par semaine dans leur famille. Et en fait, c'est les enseignants qui qui proposent aux familles que leur enfant soit accompagné par la FEVE. Et généralement, en tout cas, dans le quartier où j'ai enquêté, ce sont les enfants dont les familles sont repérées comme étant les plus éloignées de l'école qui bénéficient de cet accompagnement. Donc c'est pour ça que je suis passée par la FEVE. Et puis j'ai aussi utilisé donc les temps de présence dans les écoles, café des parents notamment, pour créer des liens avec les mères. Donc les mères que j'ai rencontrées sont des femmes sans emploi ou en emploi précaire peu qualifié. Toutes ont un parcours migratoire, avec une diversité d'origine et des migrations plus ou moins anciennes. Généralement des parcours scolaires très courts. Et puis, Très rapidement se dégagent donc des logiques d'ethnicisation pardon, des rapports qui pointent donc leur origine comme potentiellement une difficulté ou en tout cas une spécificité majeure. Or, il se trouve que face à elle, je suis une femme blanche, diplômée, et que mon exis, comme dirait Bourdieu, en tout cas ma manière de me tenir, trahit mon appartenance aux classes moyennes. Donc, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie prise dans une intrication de rapport de pouvoir, parce que j'étais face à des enquêtées qui sont dans une position vulnérable, c'est-à-dire qu'elles sont dans des configurations qui les vulnérabilisent, hein, c'est pas qu'elles sont intrinsèquement vulnérables, marquées donc par du racisme, donc difficulté d'accès à l'emploi, etc. Elles sont stigmatisées au sens de Goffman, c'est-à-dire qu'elles sont désignées comme n'étant pas la norme. Donc j'étais très affectée en fait de rentrer dans ce rapport parce que j'avais peur de reproduire des rapports de pouvoir et j'avais un fort sentiment de culpabilité d'être celle qui interroge, qui peut être intrusive, insistante, etc. Et mes premiers entretiens d'ailleurs me semblaient ratés. Donc mon entrée sur le terrain, elle est marquée par cette question, comment enquêter, donc je pourrais dire comment rencontrer ces personnes, ces femmes sans abuser de la rencontre, alors que l'enregistrement fait peur et sans tomber dans l'écueil du misérabilisme qui serait évidemment la pente opposée. Donc pour rentrer dans l'enquête, en fait j'ai utilisé mes affects, donc la gêne et la crainte essentiellement, comme moteur de la rencontre. Comment ça se passe ? Donc pour créer une relation aussi dédramatisée que possible, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'engage personnellement et que je laisse jouer l'intuition, la sensibilité comme condition de la rencontre. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait lâcher la grille d'entretien, en fait oublier l'enquête pour mieux y entrer, à travers un ensemble d'échanges informels, de micro-interactions, prendre des nouvelles de l'enfant qui était malade la semaine dernière, demander comment ça se passe, est-ce que ça va au moment du ramadan, etc. Enfin, un ensemble de choses qui ne relèvent pas de l'enquête en tant que telle, mais qui signifiaient ma volonté sincère et manifeste de m'intéresser à ce que vivent les personnes. Et c'est comme ça que j'ai gagné la confiance des mères, en fait, et que j'ai pu recueillir des informations vraiment utiles sur le quotidien, sur ce qui se passe au quotidien. En fait, je me suis rendu compte que créer le lien, c'était déjà enquêter, parce que ça parlait de la manière de créer le lien parlait de leurs conditions de vie, de leurs craintes, etc. Je me suis appuyée là-dessus sur un texte que je voulais lire la phrase, qui est une phrase de Grignon et Passeron qui dit « C'est l'oubli de la domination, non la résistance à la domination, qui ménage aux classes populaires le lieu privilégié de leurs activités culturelles les moins marquées par les effets symboliques de la domination. » Donc, il était question vraiment de rentrer dans une relation non menaçante, de créer une relation non menaçante. Donc pour ça, j'ai essayé de mettre en place des choses, par exemple, ne pas imposer d'horaire ni de lieu de rendez-vous, laisser les personnes choisir ce qui était le plus confortable pour elles, accepter en fait de ne pas avoir la maîtrise du temps de l'enquête et accepter d'être dépendante de ses parents, de leur méfiance, de leur confiance, de leurs indisponibilités et de leurs hésitations à parler. J'ai aussi travaillé sur ma posture, en fait, en mettant l'accent sur ce qu'on pouvait avoir en commun. Et puis, ce que je crois aussi, c'est que les enquêtés, donc là, je cite Gérard Mauger, il dit « Les enquêtés n'acceptent de se prêter à l'enquête que s'ils pensent être en mesure d'y revendiquer un moi acceptable. » Et en fait, il m'a vraiment semblé que la relation d'enquête était possible quand le regard posé sur les personnes leur permettait de dire leur dignité. Et ça, je crois que ça a été assez important. Et c'est ce qui a, à mon avis, permis de tisser un lien malgré tout ce qui nous séparait, ces femmes et moi. Alors, ce lien, il s'est concrétisé, il s'est matérialisé dans des demandes et des sollicitations. Par exemple, écrire des courriers, lire des documents administratifs, prendre des rendez-vous en ligne avec la préfecture, des demandes sur les débouchés après certains choix de filière, etc. Alors, j'ai accepté la plupart du temps de répondre à ces demandes. Bon, déjà parce que ça relevait juste de mon éthique personnelle. Et aussi, j'ai interprété ces logiques ces demandes dans une logique de don et contre-don. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'il y avait quelque chose à offrir et pas seulement à prendre sur le terrain auprès de ces familles. Et aussi, je me suis aperçue que les demandes, en m'obligeant à revenir voir certains parents, certaines mères, favorisaient un lien plus sincère, c'est-à-dire que des propos qui avaient été tenus 2 semaines plus tôt, qui étaient assez lisses, soudain la parole se dénouait et il y avait finalement des critiques ou des réserves par rapport à l'école qui étaient émises au fur et à mesure que le lien s'approfondissait. Donc le don est apparu comme une exigence éthique, mais aussi comme un étai méthodologique pour comprendre ce qui se jouait pour ses parents. Donc dans ces liens et ces échanges, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'essaie de créer une relation d'enquête dans la familiarité respectueuse de l'autre et de moi-même. Et il me semble que la dimension sensible dans ce cadre-là, elle est apparue comme une caractéristique de mon travail, mais aussi comme une condition de réalisation de la recherche. C'est-à-dire que sans ça, je pense que je n'aurais pas pu enquêter. Donc avec tout ça, j'estime à environ 40 le nombre de familles rencontrées, 34 avec lesquelles un entretien a pu être enregistré. Et pourquoi tout ça ? En fait, il me semble que l'objectif, c'est d'appréhender l'expérience vécue, donc par ses mères, non pas parce que ce serait bien, donc non pas au plan moral, mais parce que c'est nécessaire en fait pour saisir les dynamiques relationnelles et sociales qui se tissent entre l'école et les parents. Et là, il y a quelque chose qui est à mon avis assez important, il y a un présupposé assez important, c'est l'idée de faire émerger ce qu'on appelle des savoirs expérientiels. C'est le savoir des gens qui n'est pas un sens commun, un bon sens, mais c'est un savoir particulier, un savoir local, un savoir différentiel. Et ça, prendre pour acquis que ce savoir des parents, il vaut autant que le nôtre, que le mien, il me semble que c'est particulièrement intéressant quand il est question de la coéducation. Alors, je vais maintenant rentrer dans quelques enseignements de la recherche. Voilà comment on a pensé les choses. Je vais faire une première partie très 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 général, vraiment avec les grandes lignes de ce que j'ai compris du quotidien des mères et puis de ce que j'ai compris aussi des entretiens avec les enseignants et enseignantes. Et ensuite, je vais faire 2 focus sur 2 éléments qui vont permettre d'éclairer de manière plus précise ce que je vais aborder un peu de manière un peu générale maintenant. Donc du point de vue du contexte institutionnel, donc des enseignants et enseignantes que j'ai rencontrés. Alors ce qu'on retrouve, c'est une figure de parent idéale qui est assez normée, c'est-à-dire que les enseignants attendent des parents qu'ils signent les cahiers, accompagnent les devoirs, participent à la vie de l'école. Donc il y a un ensemble d'attentes qui façonnent la figure du parent d'élève idéal, on va dire. Peu de parents répondent à ces attentes. Il y a pas mal d'interrogations sur les pratiques parentales, des enfants qui sont jugés non conformes, je cite, hein, et des attitudes parentales décrites comme décalées, c'est-à-dire perçues de façon assez déficitaire. Donc, de manière générale, on considère qu'ils n'en font pas assez ou que c'est pas assez, en tout cas qualitativement satisfaisant. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une lecture ethnicisante, j'ai commencé à l'esquisser, hein, des attitudes parentales. En fait, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un tissage dans les discours des enseignants entre la difficulté socio-économique et l'idée d'une culture différente. Donc les deux se marient, on va dire. Et c'est utile, en fait, ça a son importance parce que le fait qu'il y ait une lecture culturaliste justifie ou permet des projets en direction des parents qui visent à les acculturer, c'est-à-dire à leur donner les codes de l'école, en partant du principe que parce qu'ils sont pas nés en France ou immigrés, ils ne les auraient pas. Donc ça, c'est à mon avis un point assez intéressant. Et donc dans ces projets, il y a évidemment une visée de reconnaissance réciproque, hein, dans les cafés des parents, c'est-à-dire de se dire on se rencontre, on peut échanger. Mais ce qu'on voit quand on assiste au projet, c'est aussi des logiques un peu de normalisation, c'est-à-dire de dire aux parents comment il faut faire sur un ensemble de points, l'alimentation, le sommeil, les devoirs, etc. Alors, du côté des mères, leur quotidien, c'est un quotidien qui fixe dans le temps et dans l'espace. Pourquoi ? Parce que c'est des femmes qui sont extrêmement centrées sur ce qu'on appelle le care. Donc c'est le soin, la sollicitude qui est offert à l'entourage, plus ou moins proche. Donc il y a les enfants, bien sûr, mais il y a aussi la famille plus élargie, le voisinage, etc., avec des solidarités assez fortes dans le quartier. Donc, une grande importance des sphères éducatives et domestiques et une charge mentale très forte autour de la surveillance des enfants, de l'occupation des enfants, une préoccupation sur tout ce qui fait le quotidien, les maladies, l'alimentation, le sommeil, qui reviennent très souvent dans les échanges. Et des mères qui présentent vraiment le quotidien comme un parcours du combattant, quelque chose de dur, de difficile dans ce quotidien sans cesse renouvelé dans la difficulté. Et puis, des vulnérabilités qui s'entremêlent en toile de fond, en fait, hein, de ce quotidien-là. Des fragilités liées à l'exil, des parcours scolaires souvent contrariés, raccourcis contre leur gré, en fait. Une expérience du genre, donc le fait d'être une femme qui s'inscrit vraiment dans une hiérarchie, donc des femmes qui sont parfois très méfiantes à l'égard des hommes en particulier. Et un rapport au temps qui est façonné par une logique de l'urgence, comme l'appelle Millet Étain, c'est-à-dire des difficultés administratives, financières, etc., qui construisent un temps assuré, où on ne fait que répondre à l'urgence d'un rendez-vous, d'un besoin pour aller à la CAF, etc. Donc ça, ce quotidien, il se traduit évidemment dans le rapport à l'école pour les mères que j'ai rencontrées. Alors, premier point, des grandes attentes liées à l'école, notamment une forte attente d'ascension sociale, et des obstacles à la relation, en particulier une crainte qui est assez prégnante, parce que l'école, elle est déterminante de l'avenir de l'enfant. Donc il y a des peurs autour de la scolarité, et il y a aussi des méconnaissances, enfin une assez profonde méconnaissance du fonctionnement de l'institution scolaire. Il y a une grande confiance en même temps, des affects très positifs à l'égard de l'école. Ça, c'est vraiment récurrent, qui confine, en tout cas, qui peut être lu par certains côtés comme une forme de délégation, avec l'idée que l'école va vraiment apporter quelque chose qu'en tant que parent, on ne pourra pas de toute façon amener. Et puis, une variabilité du lien avec l'école, j'insiste pas là-dessus, je reviendrai. Premier focus, c'est ce que j'ai appelé l'euphémisation des difficultés, qui est donc un enjeu qui revient de part et d'autre. C'est-à-dire à la fois, je l'observe dans les discours des enseignants et dans ce qu'expriment les parents. Alors, du côté des enseignants, il y a souvent l'idée que quand il y a une difficulté avec un enfant, on l'exprime de manière assez douce aux parents. Donc très souvent, ce qu'on dit, c'est « il y a un petit souci ». Il y a une enseignante qui dit clairement en entretien, en fait, c'est vraiment de la langue de bois. C'est-à-dire que il y a une posture un peu compréhensive, etc., qui conduit d'une part, parfois, à diminuer les attentes à l'égard des élèves. Donc ça, c'est des enseignants qui, très clairement... explique qu'ils sont contents quand l'élève a dit « bonjour à tes souhaits, merci, au revoir ». Donc ça, c'est un premier point. Et un autre point, c'est que face à ces petits soucis, donc en fait qui sont parfois des grosses difficultés, on a besoin d'externaliser la prise en charge de la difficulté, donc à savoir orientation MDPH, donc maison départementale des personnes handicapées, ou tout simplement suivi chez un orthophoniste. Parfois, il y a recommandation d'aller voir un psychologue ou une psychologue, etc. Donc, pour que les parents acceptent, en fait, ces orientations, il y a une forme d'embellissement, hein, j'emploie les mots de mes enquêtés, pour dire « mais vous inquiétez pas, c'est normal ». C'est une très bonne, c'est un très bon moyen pour accompagner votre enfant, etc. Mais ça crée en fait beaucoup de malentendus avec les parents qui n'ont pas forcément connaissance des implicites autour de cette filière ou qui en ont des représentations erronées. Donc il apparaît dans ce, tout ce processus-là d'euphémisation, à la fois pour protéger un peu les parents, pour ne pas catégoriser l'enfant et pour faire accepter certains types d'orientations, en fait ça rend la décision, l'orientation proposée par l'école, ça la rend imprévisible et c'est un pouvoir très fort de ne pas permettre aux parents d'avoir une anticipation raisonnable de ce qui va se passer pour leur enfant, qu'est-ce qui sera possible en fait ensuite pour lui. Alors du côté des parents, cette euphémisation, elle est finalement réappropriée d'une certaine façon. Très souvent, les parents disent « ça va aller » et c'est vraiment quelque chose de très récurrent dans leurs propos, si bien que je pense qu'en fait, ils répètent ce que les enseignants leur ont dit. C'est-à-dire, il y a une répétition de ce qui a été énoncé dans une forme de rassurance. Mais finalement, l'adhérence des mères à la notion de petits soucis ne leur permet pas d'accéder à la signification réelle des remarques qui leur sont faites. S'ajoute à ça le fait qu'il y a un ensemble d'aides qui sont mises en place, donc les APC, le maître G, parfois il y a l'AVS, il y a l'accompagnement de l'étudiant de la fève, dans certains cas, qui se confondent pour les mères dont l'origine étrangère, l'arrivée récente en France ou la non-maîtrise de la langue n'a pas permis l'acculturation à ces différentes composantes du monde scolaire. Donc il y a une grande désorientation par rapport aux aides qui sont apportées. Je vais vous lire juste deux verbatims qui me semblent assez éloquents. Il y a une mère qui dit « Il y a une femme qui accompagne ma fille deux fois par semaine. » Mais qui est cette femme, dans quel cadre, elle ne le sait pas. Et une autre mère qui dit « Il y a un monsieur qui a accompagné mon fils une heure dans l'école, il le met dans son bureau avec les jouets, il regarde qu'est-ce qu'il fait, il pose des questions et tout ça. » Mais elle ne sait pas non plus vraiment ce qui se passe ici. Donc en fait, ce flou ouvre à mon avis la voie de l'inquiétude parce que ces familles s'inscrivent dans un rapport dissymétrique par rapport à l'école. Elles doutent de leurs compétences et elles redoutent en fait de ne pas pouvoir faire la démonstration de leur bonne volonté en matière éducative. Alors dans ce cadre-là, il y a aussi, à mon avis, un intérêt à croire aux formulations un peu adoucies hein, des enseignants sur la difficulté scolaire, c'est de faire valoir un regard alternatif sur l'enfant. C'est-à-dire que croire aux formulations euphémisées des enseignants, ça pourrait être peut-être un réflexe aussi de s'apparenter à un réflexe de protection pour continuer à projeter un avenir prometteur pour l'enfant, puisque comme je l'ai esquissé, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et du coup, ça conduit à des formes de retrait, voire de rejet de certaines prises en charge, parce que la difficulté scolaire, quand elle est externalisée, c'est souvent mal perçu par les familles qui souhaiteraient davantage de soutien au sein de l'école. Donc ça, c'est exprimé par les parents. En particulier, le rejet de la psychologie est récurrent et notable parce qu'il renvoie vraiment pour les parents à l'imaginaire de l'anormalité, de la folie éventuellement. Et surtout, ça fait pas du tout sens avec ce que les parents imaginent de l'expérience scolaire qui doit être centrée sur les enseignements, vraiment uniquement. Donc on comprend pas pourquoi soudain il est question de psychologie. Et il y a aussi une grande méconnaissance de ces professions dans les familles d'origine étrangère. Je pense à une famille à qui on demandait une orientation chez un orthophoniste. Ce suivi était refusé parce que les parents pensaient que c'était la même chose que le psy. Donc en fait, il y avait un énorme malentendu sur qui faisait quoi. Et puis, il y a vraiment une grande crainte de la catégorisation de l'enfant et du jugement à travers ce type de prise en charge. Et puis, un dernier point, c'est qu'il y a une grande difficulté à accéder aux soins, c'est-à-dire que quand les parents ont dépassé d'une certaine façon ces appréhensions ou décident de mettre en place le suivi, De multiples ressources, en fait, doivent être mobilisées pour accéder à ces demandes qui ont l'air simples. Mais pour avoir un suivi chez un orthophoniste, parfois, il faut attendre 6 mois, 1 an, rappeler, etc. Donc, c'est assez difficile. Et ensuite, quand le suivi se met en place, c'est très lourd dans le quotidien à gérer, c'est-à-dire le suivi des rendez-vous, faire les allers-retours, attendre pendant le rendez-vous, pendant ce temps, trouver quelqu'un d'autre pour aller chercher les autres enfants à l'école, etc. etc. Donc en fait, il y a un coût temporel, financier et surtout symbolique de certaines formes de catégorisation de l'enfant et de certains types de prise en charge qui explique à mon avis que l'euphémisation pratiquée par les équipes éducatives est réutilisée aussi par les parents. J'ai retrouvé un verbatim d'enseignants qui disent « Parfois, on arrive jusqu'à une orientation, puis au dernier moment, la famille nous dit « Ben non, finalement, on n'avait pas compris, et puis l'enfant, il n'est pas orienté. » Ça arrive quand même régulièrement. C'est très long parfois de constituer les dossiers, et ça s'arrête brusquement. Et une autre qui dit « Ça se discute. » En fait, ça se discute au sein de la famille, au sein des amis, au sein de la communauté. Et en fait, effectivement, je pense que il y a quelque chose qui se discute sur aussi le refus donc de la catégorisation de l'enfant. Ça m'amène en fait, ça va faire le lien avec un deuxième focus qui est la question de la distance et de la proximité avec l'école. On voit qu'à travers ces processus d'euphémisation, il y a parfois des formes de mise à distance par les parents. Et en fait, ce que mon travail m'a permis de regarder, c'est que il y a tout un pan de la recherche qui pointe le différent et les effets de dissonance entre l'école et les familles populaires. Donc ça, voilà, comme je viens de le montrer avec l'histoire de l'euphémisation, on le retrouve, c'est-à-dire que ça existe. Et en même temps, il me semble qu'il y a ce que j'ai appelé des oscillations, c'est-à-dire des tentatives de minimisation de ce hiatus par les mères. Donc là, c'est vraiment porté par les mères. C'est-à-dire que leur retrait, quand elles sont en désaccord, donc par exemple sur l'orientation de l'enfant, puisqu'on donnait cet exemple-là, c'est pas toujours uniquement une distanciation. Et ça cohabite avec des formes de participation qui visent à maintenir un lien avec les équipes ou en tout cas à maintenir un encouragement de l'enfant quant à sa scolarité. Tout ça se tisse en même temps, en fait. Voilà. Alors, pour comprendre ça, il me semble qu'il faut considérer l'engagement des mères dans sa diversité. Moi, j'ai considéré que il y avait un engagement, une implication familiale quand il s'agissait de participer à la vie de l'école, d'aider pour les devoirs, tout simplement d'inciter l'enfant. Je pense à une mère qui était très très démunie mais qui disait « moi je l'encourage, je lui dis de se présenter pour être déléguée de classe, etc. » Quand il y a des achats aussi qui sont faits en lien avec l'école, donc par exemple des tableaux pour jouer mais qui correspondent au monde scolaire, des livres, etc. L'accompagnement pour les rendez-vous, donc pour les prises en charge dont on a parlé. Pour moi, tout ça, et il y aurait d'autres choses, hein, bien sûr, mais c'est des marqueurs, en fait, des indicateurs de l'implication dans la scolarité qui peuvent se cumuler en fonction des dispositions des mères et avec lesquels elles jouent. C'est-à-dire que sur la période de l'enquête, il y a des mères qui ont changé d'attitude à l'égard de l'école, donc dans ces oscillations, pour se protéger par exemple du regard de l'institution, quand il y avait un sentiment d'injustice, donc ça c'est quelque chose qui est assez prégnant dans les discours des mères, sentiment d'injustice, pardon, ou le sentiment d'être jugé, ou la crainte du regard, en fait, tout simplement, sur l'éducation qui est donnée à la maison. Donc dans ces situations-là, il y a des mères qui vont par exemple s'impliquer au café des parents ou accompagner des sorties scolaires, mais qui vont éviter par exemple d'autres sollicitations qui les ennuient ou bien un face-à-face qui va être trop difficile à gérer en fait. Donc c'est des oscillations imperceptibles ou parfois plus affirmées qui vont permettre de mettre à distance les éléments douloureux de la relation à l'institution. Ce qui m'a semblé, c'est que la durée de la présence en France, le niveau de diplôme des parents, la proximité avec l'école dans le cadre de projets collectifs notamment, ne sont pas des variables explicatives de ces oscillations, de ces logiques pendulaires que j'ai retrouvées à peu près dans toutes les situations. C'est plutôt, à mon avis, des ajustements en fait pour faire avec ce qui est demandé par l'école et le regard qui est posé sur la famille. Et en fait, il me semble qu'on ne peut comprendre ces ambivalences apparentes, hein, parce que, par exemple, le retrait par rapport aux enseignants et la soif de réussite, ça peut sembler ambivalent, ou bien participer au projet collectif et ne pas faire d'aide aux devoirs. Là, encore une fois, ça peut paraître ambivalent, mais on peut comprendre ça qu'en contextualisant, c'est-à-dire en remettant ces attitudes dans une trame, encore une fois, plus générale, qui est celle du quotidien et qui est celle du passé et des vulnérabilités que j'ai évoquées, avec à la fois les ruptures et les espoirs que ça suscite dans le présent. Donc, il me semble aussi qu'à travers ces mouvements-là, il y a quelque chose de très fort, c'est chez les mères une tentative, en tout cas, oui, même une démonstration certaine, de leur statut de bonne mère. C'est-à-dire qu'il est question, en maintenant ce lien, soit avec les enseignants, soit de soutenir l'enfant dans sa scolarité, il est question de préserver une image de soi. Et on le sait, hein, il y a une injonction très forte qui pèse sur les femmes en particulier autour d'être une bonne mère. Et l'école, et en particulier les rendez-vous avec les enseignants, mais aussi les projets collectifs, sont des espaces où ça peut être jugé ou évalué, en fait, cette capacité-là. Donc ces mouvements permettent, à mon avis, de s'assurer de ce statut. Et à ce titre-là, tout ce qui est café des parents, classe ouverte en activité, ce sont des temps qui sont en fait souvent détournés de leurs objectifs initiaux, pardon, et réappropriés par les mères, à la fois comme des espaces de convivialité, mais aussi comme des espaces où on peut être valorisé précisément pour ce qu'on fait, pour la manière dont on accompagne son enfant, pour la manière dont on s'implique dans le collectif. Donc il y a une reconnaissance et des professionnels et d'autres mères qui se nouent à cet endroit-là et qui expliquent aussi ces logiques pendulaires, parce que comme il y a de la reconnaissance, on a aussi envie d'aller la chercher. Donc voilà, ça explique le fait qu'il n'y a pas, à mon avis, que de la distance et qu'il y a plutôt différentes attitudes à l'égard de l'institution qui cohabite.